Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les œuvres de miséricorde. Cette liste de 14 œuvres, 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle qui nous rendent semblables à Dieu. Nous avons déjà dit, mais je le rappelle à chaque fois, je trouve que c'est vraiment important. On dit œuvres de miséricorde, on aurait pu dire des œuvres d'amour. Parce que la miséricorde, c'est l'amour. Un type d'amour en particulier, ce qu'on appelle l'amour charité, l'amour agapé, cet amour qui se donne complètement, qui est don de soi. Donc c'est cet amour déployé devant la misère de l'autre, qui se penche vers la misère de l'autre. Donc la miséricorde n'est autre chose que cet amour qui se penche vers la misère de l'autre. Donc les œuvres de miséricorde, nous avons vu déjà donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir les nus, rendre visite aux malades. Et maintenant, nous allons voir l'œuvre de miséricorde qui consiste en visiter les prisonniers. On appelle comme ça, donc rendre visite aux prisonniers. C'est une œuvre très intéressante, elle a quelque chose de particulier. Parce qu'à la première vue, on peut comprendre que c'est pas parce que quelqu'un a commis un acte criminel ou parce qu'il a fait un tort à la société ou à une personne qu'on doit l'abandonner. Il doit purger sa peine, mais on peut quand même lui rendre visite. Oui, il y a cet aspect, on va y revenir, mais il faut penser aussi à tous ceux qui sont en prison injustement ou parce qu'ils pensent différemment. Par ses idées, par ses opinions politiques, ceux qui doivent être exilés aussi, quelque part, ceux qui sont en prison à cause de leur foi, peu importe laquelle, en l'occurrence, nous qui sommes des chrétiens. Et donc, il y a plusieurs cas de figure, mais toujours en gardant dans l'esprit cette idée de ce que chaque fois que j'accomplis une œuvre de miséricorde, c'est à Jésus lui-même que je l'accomplis, que je la fais. Cette œuvre de miséricorde. C'est Jésus qui nous l'a dit. Il a dit « J'étais en prison et vous êtes venu me voir ». Et quand on demande « Mais quand est-ce que cela s'est passé ?» On n'a pas les souvenirs. Jésus dit « À chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, au plus petit de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait ». Donc c'est une œuvre de miséricorde assez particulière. Tout d'abord, par rapport à l'existence même de la prison, des systèmes pénitentiaires, je voudrais lire deux paroles de la Bible à ce sujet, que je trouve très intéressant. On aurait pu prendre l'Ancien Testament aussi, mais j'ai choisi Saint Pierre et Saint Paul, qui nous aident à comprendre l'existence même de la loi, de l'autorité, de la justice humaine. Alors la première parole, elle est prise de la première épître de Saint Pierre, deuxième chapitre, verset 13 et suivant. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en homme libre, non pas en homme qui font de la liberté en voile sur leur malice, mais en serviteur de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc vous voyez déjà que cette parole de Saint-Pierre, et pourtant à l'époque de Saint-Pierre, le roi ou plutôt l'empereur, l'autorité en place était l'autorité romaine. Et nous savons comment l'autorité romaine s'est acharné contre les premiers chrétiens. D'ailleurs, Saint Pierre et Saint Paul, dont je vais lire un extrait maintenant, vont tous les deux mourir, devenir martyrs sous l'Empire romain. Mais maintenant, lisons ce que nous dit Saint Paul par rapport aux autorités. De la lettre aux Romains au chapitre 13. « Que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et celles qui existent sont constituées par Dieu, si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu en recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive, elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. N'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts ? car il s'agit des fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Voyez, aussi bien Saint Paul que Saint Pierre, on aurait pu prendre aussi d'extraits de Saint Paul à Timothée qui parle de la loi qui est faite pour les méchants. C'est-à-dire qu'il y a une justice humaine qui est voulue par Dieu. Et c'est normal que dans une société, on trouve l'équilibre en faisant purger des crimes, des actes mauvais qui ont été commis. Ça, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit nullement d'ouvrir toutes les prisons et faire échapper tout le monde dans une utopie naïve, dans un monde qui n'existe pas. Non, la sécurité est importante. Et je vais même dire que ça fait partie de la conversion de la personne qui a commis tel ou tel acte criminel. Ça fait partie de sa démarche de conversion que d'accepter la peine, que d'accepter qu'elle ait quelque chose à expier, à purger. Et ici donc, il s'agit d'abord de rendre visite à ces prisonniers, bien sûr, de pouvoir montrer la miséricorde de Dieu, montrer que Dieu, même si on a commis les pires péchés du monde, ne nous a jamais abandonnés, que la porte du pardon, que les portes de la miséricorde seront toujours ouvertes. Donc le fait de voir un chrétien, quelqu'un qui rend visite aux prisons, combien d'aumôniers de prison, combien de personnes vont aux prisons pour animer les messes, pour aider, pour annoncer l'évangile, c'est très important. Je connais au Brésil, par exemple, des communautés qui sont nées en prison, des communautés chrétiennes, 40 personnes qui sont nées en prison, des gens qui désormais ont reconnu le Christ, qui chantent, qui écoutent la parole, qui célèbrent l'Eucharistie. Imaginez-vous le miracle que de voir ces personnes-là qui forment une petite communauté. Des gens qui commencent à changer des vies sans aucun moralisme, sans faire des sermons, etc. Mais grâce à l'écoute de la parole de Dieu et le contact avec la miséricorde, ces personnes-là peuvent rencontrer Dieu. Mais en rencontrant Dieu, ils acceptent aussi leurs conditions, ils acceptent les conséquences de leurs actions, les conséquences de leurs actes. Mais évidemment, comme je disais, cette parole nous invite à aller plus loin. Il y en a qui ne sont pas en prison parce qu'ils ont commis des crimes. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ont des idées qui ne plaisent pas aux autorités mises en place, ou tout simplement à cause de leur foi. Peu importe laquelle, je répète, hein, c'est pas une apologie forcément du catholicisme. On peut être en prison aussi dans des pays catholiques parce qu'on croit à autre chose. Donc c'est pas ça la question. Mais le fait est que le plus souvent, c'est les chrétiens qui sont en prison dans des pays qui n'acceptent pas cette foi. Et cela depuis le début de l'Église. Je vais vous lire un passage des Actes des Apôtres où Saint Pierre a été arrêté et comment le Seigneur vient le délivrer par l'entremise de l'ange. C'est des Actes des Apôtres, chapitre 12, le tout début du chapitre. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des azimes, c'est-à-dire le début de la Pâque. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 squads de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats, 2 chaînes le liaient, et devant la porte des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. « Debout, vite !» dit-il, et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce qu'il fit. Il lui dit encore « Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » Pierre sortit, il le suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit « Maintenant je sais, réellement, que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à maintenant, si nous allons à Jérusalem, nous avons cette porte de la maison, de la prison déjà, mais aussi de la maison des frères qui priaient pour Saint-Pierre, la maison des Marc qu'on appelle, où après Saint-Pierre s'est rendu une fois qu'il a été libéré de la prison. Donc vous voyez, Saint-Paul, la même chose, dans plusieurs lettres de Saint-Paul, ce qu'on appelle les lettres de la captivité, par exemple Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Saint-Paul dit « je suis en prison ». Voilà, moi, prisonnier dans le Christ, je vous exhorte à vivre selon l'évangile que j'ai prêché, etc., etc. Donc, Saint Paul aussi va expérimenter la prison à Rome et il va même dire, tous m'ont abandonné, il n'y a que Luc l'évangéliste, ami de Saint Paul, disciple de Saint Paul, qui ne m'a pas abandonné, mais qui est resté toujours avec moi. Donc, voilà que depuis l'Église primitive, les chrétiens sont mis en prison, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Tout simplement parce qu'ils annoncent Jésus-Christ. Et là aussi, c'est une œuvre de miséricorde que de prier pour les chrétiens persécutés, que de rendre visite, que de pouvoir aider, et même de tout faire, évidemment, par les moyens légaux, ça va de soi, pour qu'ils soient délivrés de cette torture-là, de cette prison.
Père, on comprend bien que cette notion de... Enfin, cette œuvre de miséricorde, elle relève vraiment de la charité, de l'amour, hein, pleinement. Mais elle nous pose une interrogation par rapport aussi au sens de la justice humaine telle que nous la concevons. Parce que pour nous, peut-être, certains délits sont tellement graves que peut-on exercer une miséricorde pour ceux qui sont vraiment de grands criminels avec des crimes toujours odieux qui nous révolte, hein, je n'ai pas besoin de faire la liste, on comprend très bien, voilà. Donc c'est toujours, c'est une interrogation quand même qui nous pousse à une conversion, parce que faire ?
Oui, tout à fait. Cette œuvre de miséricorde, visiter les prisonniers, qui semble si simple, en fait, nous mène à une réflexion approfondie sur le lien entre justice et miséricorde. Pas seulement Dieu, mais aussi la justice des hommes et la miséricorde que nous pouvons avoir envers ceux qui ont fait le mal. Et quel mal, comme vous avez dit, on connaît la liste des pires criminels, des gens qui... Parce que parfois, on a l'impression qu'en faisant miséricorde à ces personnes-là, on est injuste vis-à-vis des victimes. Parce qu'on se dit, et la famille de celui qui a perdu l'être cher qui a été tué, ou de la femme, etc., comment se positionner face à cette famille-là ? Ce serait de l'injustice que d'aider les prisonniers. Or, effectivement, il faut garder les deux, la justice et la miséricorde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours de haine qu'on entend, et qui peuvent dire, alors, si telle personne a commis tel acte, c'est fini pour lui, il faut soit le tuer, soit qu'il soit privé de tout droit, etc. Or, nous savons que la justice existe, qu'il faut des peines proportionnées, évidemment. Nous savons aussi qu'il y a des personnes, malheureusement, après les récidives, après tout ce qu'on a, la justice humaine, après tout ce que la société a essayé de faire pour eux, il y a des personnes qui ne pourront plus vivre en société parce qu'elles représentent un danger trop grand pour les personnes autour. C'est vrai, il y a des personnes qui ne pourront plus. On pense, bien sûr, aux tueurs en série, mais pas seulement. Il y a des gens qui ne sont pas à même de vivre en société avec les autres, libres comme cela. Mais ce ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas recevoir, justement, des visites, des gens avec qui parler, une attention humaine, une attention humaine, l'expression de la charité chrétienne n'est pas, je rappelle, cette idée naïve de ce que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, pas du tout. Nous avons tous les péchés originels et parfois ces péchés originels ont produit des fruits, des conséquences néfastes plus pour les uns que pour les autres. Et donc, tout à fait, on peut pas tout à fait évacuer la question du danger, de la justice, etc. Mais la miséricorde est toujours présente par une parole, par un espoir et surtout, évidemment, par l'annonce de l'Évangile en disant que peut-être sur Terre, cette personne n'aura plus jamais la possibilité de fréquenter le monde, de sortir, de se promener, d'avoir sa liberté, mais que le Seigneur, par son pardon et sa miséricorde, qui sont infinis, le Seigneur n'attend qu'en repentir. Il n'attend que le regret sincère de nos fautes pour nous pardonner complètement. Et ensuite, dans la vie éternelle, cette personne pourra enfin, après avoir purgé sa peine et ses péchés, être libre grâce au sang du Christ qui a été versé pour tous les impies de la terre, pour tous les criminels, pour tous les méchants, pour tous les pécheurs, dont nous sommes évidemment les premiers. Vous voyez, des pécheurs, je veux dire. Et donc, ça veut dire que la justice et la miséricorde vont toujours ensemble, mais il ne faut jamais oublier la miséricorde, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tendance plutôt à ça. Bon, en fait, il y a les deux tendances. Hein. Il y a ceux qui ne veulent plus de prison, qui veulent faire sortir tout le monde, et on sait combien ça représente un danger pour la société. Mais je pense toujours au discours de haine aujourd'hui, qui voudrait la mort de tous ceux qui sont en prison. Je vous rappelle la doctrine de l'Église. Pendant des siècles, et c'est une réflexion tout à fait valable, bien sûr, l'Église avait dit que la peine de mort était évidemment le dernier recours de la société pour protéger les citoyens. Et elle était légitime du moment où on avait épuisé tous les autres moyens à disposition. Donc ça, pendant des siècles, on avait dit. Mais déjà, le catéchisme de l'Église catholique et plus encore le pape François qui a changé ce numéro, qui a voulu personnellement changer ce numéro du catéchisme de l'Église catholique, nous a rappelé qu'aujourd'hui, avec tous les moyens possibles, toutes les technologies que nous possédons, on ne peut plus dire que la peine de mort est un recours valable puisqu'on a d'autres moyens pour protéger les citoyens, pour sauver les vies, etc., tout en faisant justice. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire telle personne, je vais l'éliminer. Non. Grâce à Dieu, la justice et notre monde possèdent d'autres moyens pour empêcher ces personnes de commettre des actes criminels, de tuer, etc. Mais nous savons que la miséricorde est toujours là et le Seigneur nous fait miséricorde. Dernier point, on pourrait se souvenir aussi des proches. Parce que parfois, les personnes qui ont commis des actes criminels, ils ont des enfants qui n'ont pas de faute, des enfants qui sont nés avant ou après l'acte criminel, mais qui sont innocents, puisqu'ils sont des enfants, forcément, par nature. Et donc, ils n'ont pas commis quoi que ce soit. Donc, ils ont des proches, ils ont des femmes parfois, ils ont des mères, des pères, etc. Donc, le fait de pouvoir aider les personnes, les proches de ceux qui sont en prison, c'est aussi un acte de charité, surtout ceux qui après n'ont plus rien. Par exemple, des enfants qui après restent sans référence, sans rien. Donc le fait de les aider, c'est aussi, ça fait partie aussi de cette œuvre de miséricorde, visiter les prisonniers. Bien, mes frères, nous avons un exemple vraiment excellent pour cette histoire d'annoncer Jésus-Christ aux prisonniers, en tout cas de ne jamais abandonner les prisonniers, de prier pour eux. Il y a aussi la dimension de la prière. Bon, évidemment, la prière rentrera plutôt dans les œuvres des miséricordes spirituelles, mais on ne peut pas séparer la question des prisonniers de la prière. Et l'exemple excellent que je voudrais citer, c'est bien sûr Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux qui comprend que sa mission sur Terre est de sauver des âmes. Et elle a un premier enfant spirituel, un premier fils spirituel, qui va être Henri Pranzini, qui a été reconnu coupable de meurtre de deux femmes et d'une fillette et qui a été condamné à mort. Et Thérèse, donc, va tout faire pour lui. Elle a peur qu'il tombe en enfer. Elle va prier, elle va se mortifier, elle va offrir tout ce qu'elle peut offrir à Dieu pour la conversion de cet homme-là, de ce prisonnier. Et elle demande à Jésus un signe. Bon, elle est encore adolescente, bien sûr, elle est très jeune, mais elle avait demandé à Dieu un signe de savoir qu'elle était exaucée, que ses prières ont été exaucées, et que cet homme avait donné au moins avait fait un geste, avait donné un signe de conversion. Et ensuite, elle apprend par le journal, elle apprend qu'avant de mourir, il avait embrassé le crucifix. Et donc, c'est là, elle reconnaît le signe de la part de Dieu de ce que cet homme, qui n'avait pas voulu de prêtre, qui était enfermé dans son crime, dans son péché, etc., que cet homme s'était ouvert. Une petite ouverture où elle reconnaît son repentir, son abandon à la miséricorde de Dieu et Dieu qui fait miséricorde. Donc, elle appelait Henri Pranzini, ce grand criminel, son premier fils spirituel. Imaginez-vous, Sainte Thérèse de Lisieux. Et l'Église a toujours eu cette attention envers les criminels, les prisonniers, parce qu'elle rappelle que même si on tombe très bas, on ne tombe jamais trop bas, ou en tout cas jamais plus bas que la miséricorde de Dieu, que ce dont Jésus-Christ est allé aux enfers. Jésus-Christ est descendu aux pires régions des enfers pour nous en délivrer. Donc la porte de la miséricorde restera toujours ouverte, je le répète. Et le pape François veut toujours le signaler, le souligner en lavant les pieds des prisonniers. À plusieurs reprises, cette année 2024, il l'a fait avec des femmes, hein, des prisons à Rome. Donc il est allé laver les pieds des femmes qui sont en prison. Mais il l'avait déjà fait avec des hommes il y a quelques années de cela. Et donc il montre par là qu'on n'abandonne jamais, puisque Dieu n'abandonne jamais l'homme. Dieu qui est venu à la recherche du pécheur, Dieu qui n'abandonne jamais le pécheur, mais qui ne veut qu'une chose, qu'il se convertisse. Ça ne veut pas dire relativiser le péché, l'amoindrir, dire qu'il n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça. Mais il ne cherche qu'une chose, on le sait par le prophète Ézéchiel, que le pécheur se convertisse pour qu'il retrouve la vie que le Christ est venu nous donner en abondance. Une bonne journée à tous.
Just send your Jesus.